Qui est la personne qui a découvert qu'est-ce qu'il faut faire avec un olive il y a des milliers d'années pour que on puisse le manger? Parce que c'est pas évident. Vous prenez cette fruit d'un arbre, vous le goûtez, c'est amer et vous le crachez. Si vous le faites vivre des mois avec du sel et un peu de l'eau et faites certaines autres petites choses, vous arrivez à avoir un fruit qui est délicieux. Mais comment la première personne a découvert ça? Peut-être une forme de chamanisme qu'il a goûté cette plante un jour, qu'il est peut-être entré dans une attaque de transe ou une attaque seconde pour vibrer avec cet arbre et demander, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et peut-être dans cet arbre, une petite voix l'avait dit, ah, si vous me prenez et si vous faites ça, ça et ça avec moi, dans 6 mois, je serai délicieuse pour vous à manger. Comment on a pu découvrir ça?
Justement, je me demandais est-ce que je vais tomber chez les hystériques ou dans des avec des illuminés.
Je crois que on a assimilé chamanisme avec voudou. On a aussi assimilé chamanisme avec certaines personnes comme Rasputin qui avait eu une influence néfaste sur la Russie et la famille impériale.
Ça dérange parce que chamanisme, ça renvoie souvent à des pratiques un peu liées à la sorcellerie. Ou...
Le chamanisme est une démarche expérientielle et individuelle par laquelle le chaman communique directement avec des entités de la réalité non ordinaire. Ces entités se manifestent par exemple sous la forme d'animaux, qu'on appelle animaux de pouvoir ou animaux aidants, ou sous la forme d'esprit tutélaire ou guide spirituel. L'Américain Michael Harner est un des grands noms de ce renouveau chamanique par son travail de collectage et de modernisation des pratiques chamaniques rencontrées dans le monde entier. Nous écouterons des musiques tirées de traditions chamaniques non européennes, faute d'en trouver en Europe où le chamanisme ancestral a été éradiqué depuis longtemps par la religion.
Ça revient à la question, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire ouvertement qu'on pratique le chamanisme, j'imagine, parce qu'on n'a pas envie d'être pris pour des fous, c'est tout. Non, je pense que je suis prise pour une folle si je dis que je crois vraiment que ce sont, que mes animaux de pouvoir, par exemple, ont une existence propre. Je pense que ça passe beaucoup plus facilement si tu acceptes de croire que c'est une manifestation de ton subconscient et qu'en fait tu ne fais qu'explorer ton propre subconscient ou inconscient et présenté comme ça, ça passe beaucoup plus facilement.
Moi, je suis très peu sûr d'avoir des réponses. C'est une voix qui m'aide à mieux poser mes questions.
Enfin, disons qu'au départ, c'était plus cet intérêt enfin, intellectuel ou plus sous l'angle anthropologie. Puis ça me faisait un peu peur aussi parce que ce que j'avais lu, évidemment, c'était un peu ces récits traditionnels en Sibérie où toujours cette idée que le chaman doit avoir vécu une longue maladie ou une période très pénible, etc. pour que son don soit révélé ou lui soit communiqué.
Le voyage chamanique visite 3 mondes de la réalité non ordinaire. Le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. C'est là que se feront les rencontres qui permettront aux chamans de rapporter guérison ou réponse aux questions. Mais ici, pas d'alcool, pas d'hallucinogène ou autre substance, juste la pulsion du tambour.
Je suis Claude Poncelet, je suis né en Belgique il y a 66 ans. Je vis aux États-Unis depuis près de 52 ans maintenant. J'habite donc avec Noël près de San Francisco. Je suis physicien. J'ai pratiqué la physique nombreuses années. Je suis toujours passionné par l'astrophysique et la cosmologie. J'ai passé un nombre d'années de ma carrière à l'université enseignant et faisant de la recherche à l'Université de Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Je me suis aussi beaucoup préoccupé de la relation entre la science, la technologie et la société, Et les 15 dernières années de ma vie, j'ai surtout travaillé pour la protection de l'environnement. Le chamanisme, je le pratique depuis maintenant, je crois, près de 20 ans presque. Et le chamanisme est devenu vraiment ma voie spirituelle.
Je m'appelle Noëlle Poncelet et je suis psychologue. Et j'ai une 60aine d'années, je suis grand-mère. J'habite aux États-Unis, tout près de San Francisco. Et je pratique le chamanisme depuis probablement 15 ans. Et le chamanisme m'a parlé et m'a émue parce qu'il m'a permis d'avoir une relation directe avec le divin et m'a permis de trouver une autorité aimante et de guidance intérieure qui me permet de vivre ma vie avec plus d'intégrité, mais aussi beaucoup plus d'envergure parce que je me sens reliée avec tout le sacré qui se trouve dans tout, dans la nature, dans mon bureau de consultation, dans mes clients, dans un appareil électronique, dans ma voiture. Et cet aspect sacré, cet esprit sacré, permet un engagement dans la vie qui est à un niveau beaucoup plus vrai et vécu pour moi. Je me sens plus humaine étant reliée d'une manière sacrée avec tout ce qui est.
Je m'appelle Jean-Pierre Van Alst. Je suis un ancien médecin généraliste, recyclé en psychothérapie, et puis j'ai fait diverses formations en médecine énergétique. Et donc ce qui m'a attiré en premier lieu dans le chamanisme, ça fut le côté guérison chamanique. Ça a changé considérablement ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres et ma relation avec la nature. Je n'énonce jamais le mot chamanisme parce que là, je pense que c'est trop exagéré. Je n'ai pas la maîtrise suffisante pour dire que je fais des guérisons chamaniques. Non. Après 10 ans, je n'ai plus aucune clientèle de médecine générale qui m'est restée. La clientèle a complètement changé en 10 ans.
Et par rapport à l'ordre des médecins,
ça ne pose aucun problème. La psychothérapie est quelque chose de tout à fait inconnu, l'hypnose aussi. Le chamanisme n'est pas du tout. Si je commence à raconter que je fais du chamanisme, là je vais avoir une lettre de l'ordre des médecins demandant si je n'aurais pas la bienséance de vouloir m'abstenir de ce genre de commentaires. Moi ça ne me pose aucun problème. Je peux m'intéresser au chamanisme et continuer à travailler suivant les règles de l'art. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Il y a quelques années, l'hypnose était considérée comme quelque chose de tout à fait malvenu et tout à fait saugrenu. À l'heure actuelle, il y a 2 instituts de médecine d'hypnose en Belgique qui sont reconnus, et c'est reconnu par la faculté. Peut-être que d'ici quelques années, le chamanisme aura trouvé sa place, son créneau, peut-être. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas.
Et là, c'est tout le travail de préparation à la mort en employant des pratiques chamaniques, et alors le travail de psychopompe, où l'on va dans le monde non ordinaire, du milieu, retrouver des personnes qui sont décédées dans des situations difficiles, en général subites et violentes, et qui ne sont pas passées tout à fait de l'autre côté dans la lumière. Et nous allons alors aider les décédés, d'abord à reconnaître qu'ils sont morts, parfois ce n'est pas le cas, ils ne le savent pas, et puis deuxièmement, à découvrir que leur travail est fini sur la terre et que la plus belle chose qu'ils puissent faire pour tous, c'est d'aller complètement dans la lumière et de laisser partir et finir cette vie. Et alors, quand vous pensez au nombre de morts violents qui sont autour de la planète, pour le moment, il y a du travail à faire.
Pour moi, ces personnages, ces entités, ces représentations ont une réalité concrète.
Donc ils ont une vie propre.
Pour moi, ils ont une vie propre, oui.
Je pense qu'ils ont leur existence propre, mais bon, je n'ai rien pour le démontrer. J'en doute parfois moi-même, mais...
Je crois, dans un voyage chamanique, moi je rencontre certaines images, certaines manifestations, c'est le mot que je préfère pour décrire ça.
Sander Kirsch, psychothérapeute.
Qui sont propres à moi. Mais pendant ces dernières années, je voyageais beaucoup avec d'autres personnes. Et là, on a souvent rencontré les mêmes manifestations. Quand on était en face d'un arbre, et il y avait toute une histoire à pouvoir voir avec cet arbre, voir avec les indigènes, si cet arbre est disponible d'être un canoë pour eux. Nous avons rencontré les mêmes manifestations de cet arbre, comme l'esprit de l'arbre, et on a entendu des paroles très très cohérentes. Alors, je crois qu'il y a quelque chose d'une universalité.
Je pense qu'avec la psychiatrie classique, elle est tout à fait opposée, parce que dit effectivement que des entités perçues dans des états modifiés de conscience ont une réalité propre, se classifient directement dans la catégorie des aliénés, donc... juste bon pour la neuroleptique, si pas pour la camisole de force.
Et vous savez, de passer de la réalité ordinaire à la réalité non ordinaire, c'est la pratique fondamentale du chaman. Et à la longue, vous apprendrez à passer d'une à l'autre à volonté, comme ça. Pas besoin de tambour, pas besoin de ceci, pas besoin de ça. Où vous êtes, quoi. C'est ça que le chaman fait. De pouvoir passer d'une réalité à l'autre, de contacter le monde des esprits, de ramener les informations.
La différence majeure que moi je vois entre le chamanisme et l'hypnose, c'est que dans le chamanisme, justement, le chamanisme est un état hyper éveillé de conscience dans lequel les gens se souviennent avec une acuité particulière de tout ce qu'ils ont rencontré au cours de leur voyage. Au cours d'une séance d'hypnose, les gens peuvent avoir une perception tout aussi aiguë et tout aussi fine et tout aussi brillante de ce qu'ils rencontrent. Mais effectivement, ils rencontrent des choses qui appartiennent à leur inconscient et non pas à la réalité. Et il s'ensuit qu'au moment où ils ressortent de cet état-là, ils peuvent avoir amnésié une bonne partie de leur voyage, ce qui... à mon souvenir, en tout cas, n'a jamais été le cas dans un voyage chamanique. Quel que soit l'état chamanique ou l'état de transe chamanique dans lequel on est, on n'a jamais de phénomène comme on en a dans les transes hypnotiques. C'est-à-dire l'absence de déglutition, des phénomènes de lévitation de membres, des effets d'anesthésie, tous les effets corporels de l'hypnose ne se retrouvent pas dans le chamanisme. J'hypnotise plus que je ne suis hypnotisé, tandis que je suis plus facilement... Enfin, je suis plus en état de transe chamanique. Ça, j'y suis régulièrement. En état d'hypnose, je n'y suis pas régulièrement. Oh.
Donc, mon nom est Claire Lejeune, j'ai fait des études de théologie il y a plus de 20 ans. Et puis, donc, j'ai donné des cours de religion. Et puis, j'ai fait un break pour suivre le diplôme d'études spécialisées en anthropologie à Louvain-la-Neuve. Et au terme de cette année d'études, j'ai choisi de traiter du néo-chamanisme. Aujourd'hui, peu de gens sont encore d'accord d'adhérer à un corps de doctrine institué, transmis de génération en génération. C'est l'expérientiel qui vaut et qui prévaut. Et donc, le chamanisme, par les stages qu'il propose aujourd'hui, vise précisément une expérience, vise un contact avec des zones de soi qui sont inexplorées encore, un contact avec autrui, un contact avec la nature. Et là, je pense que l'être humain d'aujourd'hui, comme on dit souvent, très morcelé, très découpé, cloisonné dans sa vie, il retrouve là une possibilité d'unification. Et je pense que là, avec la sensibilité particulière à l'environnement que l'on connaît aujourd'hui, le chamanisme, il frappe en plein dans le mille.
Le chamanisme, au tout début, c'était surtout contact avec la nature. C'est comme ça qu'il savait quelles plantes on pouvait manger et lesquelles plantes on ne mangeait pas, ce qui était potable, ce qui ne l'était pas. Comment gérer les orages, les récoltes, etc.
Le Shuar se trouve dans la frontière entre l'Équateur et Pérou, tout au long de ces régions de ce qu'on appelle la Haute Amazonie. Il vit sur les rivières qui deviennent les rivières qui entrent dans l'Amazone plus loin. Alors, chez eux, la femme a un enfant ou un animal malade. Oui. Elle va avoir l'inspiration de comment de faire le mélange, comment de choisir la plante à travers un rêve qui est très souvent, qui était la compréhension de passé et c'était plus en fonction de l'inconscient qu'elle va trouver quoi faire.
Il y a beaucoup de façons de travailler avec les arbres, travailler chamaniquement avec les arbres. Nous pourrons parler de d'autres façons. Nous allons utiliser maintenant une façon de travailler avec les arbres qui nous permet aussi d'apprendre une autre façon de voyager, de passer dans l'état de conscience chamanique et de communiquer avec les esprits. Je vous demanderai de sortir, d'aller vous promener dehors et
Que surtout aujourd'hui, qu'on est tellement en désaccord avec la nature, les approches chamanistes offrent la possibilité d'écouter la nature, de retrouver savoir, de retrouver comment de l'utiliser, et je crois bien de retrouver une harmonie qui est tellement nécessaire sur une terre maintenant où on est en train d'aller vers un désastre.
Simplement aller plein d'innocence, demander à l'arbre de vous donner une vision, un message, un enseignement. Vous serez dans le monde du milieu, c'est assez étonnant. Vous verrez ce qui arrive à ce moment-là.
On voit que l'homme occidental a un très, très grande force en lui de vouloir détruire la nature et ne pas vivre avec. Et ça, c'est tellement différent qu'on en vit avec les indigènes qui ont vécu des milliers d'années dans les forêts. Et les relations avec la terre, avec les plantes, est tellement autre. J'en ai fait d'autres expériences chamaniques où je me suis trouvé dans des situations où j'avais un vécu d'être dans quelque chose qui était tout à fait manipulatif, où j'ai vu les accidents de rive à membres de groupe, où j'ai eu les expériences que je trouvais pas du tout bien et très difficile. Et je crois qu'on est dans un marché de chamanisme maintenant assez important et il y a tout ce qui est dedans. Moi, je suis très contente avec les choix que j'ai faits. Après, j'ai écouté et vu les gens parce que je trouve dans quelque chose où les gens ont fait une longue expérience personnelle et il y a une recherche profonde de trouver l'authenticité et de rester toujours dans un travail qui cherche d'être impeccable. Et ça, c'est très, très important. Et je crois bien que ça ne se trouve pas partout, je suis sûr, parce que j'ai fait l'expérience de contraire.
Surtout en observant les enfants, les petits-enfants, je crois que l'extase chamanique, c'est-à-dire l'état de conscience chamanique qui nous permet d'être en rapport avec l'aspect spirituel des choses, avec les esprits, est une chose naturelle chez l'homme et que les enfants l'ont naturellement. Mais je crois que pour beaucoup de gens qui viennent dans nos ateliers, pour eux, c'est presque de redécouvrir au fond ce qu'ils savent déjà.
J'en ai un peu parlé aux enfants en disant qu'il y avait des choses qui existaient. Je ne veux pas non plus traumatiser, parce que bon, dans la vie, chaque étape est importante. Chaque personne a besoin de faire une expérience avec une certaine chronologie. Il ne faut pas un exemple. Ma fille de 16 ans, elle me le dit, ça m'intéresse, mais ça m'est mal à l'aise pour le moment. Donc j'y viendrai ou je te poserai des questions, mais quand je le sentirai. Non, j'ai plus besoin de m'éclater dans la vie, etc. Par contre, la plus jeune qui a 8 ans, elle, au contraire, si je lui en parle, pour elle, c'est naturel et elle, à la limite, va me parler de ça comme si c'était la vie de tous les jours.
J'aimerais te parler du chamanisme dans la vie familiale et de l'énorme joie que notre pratique chamanique nous a amenée dans notre relation avec nos enfants et nos petits-enfants, particulièrement dans la création que nous avons fait avec nos esprits de rituels. Notre vie est très fort vidée de rituels, et je crois que c'est le cas pour l'homme et la femme moderne. Et ici, à travers le contact de nos esprits, nous avons recréé des rituels, et surtout les rituels de Noël, par exemple, qui sont tellement importants, le retour de la lumière, par exemple. Certains des enfants adultes se mettent ensemble et créent un petit rituel de 10 à 15 minutes qui ont à voir souvent avec les éléments de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, et qui permettent à tous les enfants à participer d'une manière sacrée à la raison qui nous rassemble, qui sont les fêtes. Et les enfants entrent complètement dans le jeu immédiatement. Ça a une manière de vraiment nourrir l'esprit de famille comme rien d'autre ne l'a fait. Dans mon enfance, je ne me souviens pas avoir eu des expériences comme ça.
Une des voies pour atteindre l'état de conscience chamanique est le battement du tambour de chaman. Des études finlandaises sur le chamanisme lapon ont mis en évidence, lors du battement du tambour à la fréquence de 4 à 8 coups par seconde, que les ondes dominantes du cerveau étaient les ondes θ. Ces ondes caractérisent l'état de rêve, les flashs de mémoire ou l'état de transe. Et pour tester l'effet du tambour, je me suis rendu chez le docteur Arsma, acupuncteur, qui a développé une méthode de diagnostic grâce à la prise de pouls chinois. Tout ce qui entoure l'être humain interagit avec son équilibre énergétique. Et c'est ici l'action du son du tambour que nous avons tenté de cerner.
Le pouls chinois est une technique médicale qui date d'une période où les meilleurs médecins travaillaient à la cour de l'empereur. Et comme cet empereur était quelqu'un, dans les yeux du peuple, presque divin, il n'y avait pas moyen de déshabiller l'empereur. Ce n'était pas possible. Tu pouvais voir sa figure, sa langue, sentir son pouls, et avec beaucoup de chance, voir ses urines. C'est déjà beaucoup. Et je crois qu'avec un mauvais diagnostic, tu risquais ta tête. Alors, il fallait trouver d'autres moyens. Alors, avec le temps et avec une systématique de noter tout ça, ils ont découvert toute une liste de choses qu'ils pouvaient sentir dans le pouls. Tu prends le pouls plus ou moins à l'endroit où les médecins le prennent. Alors, tu as une multitude de pouls parce que tu peux sentir quand tu as bien une quinzaine de qualités par endroit. Et le but, naturellement, c'est de développer une maîtrise, de reconnaître certaines perturbations dans le pouls. C'est pour cela que des gens comme moi vont chercher des expériences un peu extrêmes. Ils vont sentir le pouls d'un type saoulé, ils vont sentir le pouls de quelqu'un comateux, pour reconnaître certains types de perturbations. Certains organes sont influencés par certaines émotions. Le cœur est influencé par la joie, par exemple, aussi par la peur. Les reins sont influencés fortement par la peur. La rate, le système rate pancréas estomac est fortement influencé par les soucis. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des liens entre le mental et le corps. L'effet est un peu spécial, qui est un peu différent pour Anne-Françoise et pour Jean-Pierre. Pour Anne-Françoise, où le pouls était plus bloqué avant, tu vois que le pouls disparaît entièrement. Comme si tu rentres dans un état somnolence, une chose comme ça. Chez Jean-Pierre, il y avait une certaine... Le pouls était un peu excité avant. Alors, le système nerveux n'est pas tout à fait en équilibre. Et je vois qu'il y a le même phénomène comme si les vagues s'aplatissent. Si tu mets de l'huile sur les vagues. Mais il reste encore, tu sens encore le mouvement du pouls. À la fin, chez lui, tu sens que le pouls est tendu. Comme s'il est aplati avec une certaine violence. Ça veut dire qu'il y a un processus où tu changes de ton état de réveil vers un état de détente.
Le chaman est un individu dans ces sociétés qui entre dans un état second. Et c'est dans cet état second qu'il fait ses diagnostics de quel est le problème et qu'est-ce qui pourrait être l'agent curatif. Qui est très différente que notre approche qui cherche dans nos recherches les statistiques, les normes, qu'est-ce qui pourrait être, et qui écoute très peu le patient et la manifestation de patient.
Normalement, il y a un passage en énergie de ton système nerveux vers les organes et vice-versa, et tu peux sentir qu'il y a une différence au niveau de tous les organes. Ici, tu sens que ça disparaît, comme si l'énergie circule uniquement dans le cerveau, par exemple. Quelque chose de similaire. On va sentir vos pouls. Tu viens d'abord. Mais je ne reconnais pas ce pouls. Ça veut dire qu'il est différent. Il y a un effet très spécial. Pendant cette expérience, on a l'impression que le pouls disparaît, comme si il y a une sorte d'altération de conscience, comme si l'attention du système nerveux est plutôt dirigée vers l'intérieur que vers l'extérieur.
Bon, c'est sûr que le chamanisme tombe, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin ne tombe pas par hasard ou n'a pas de succès par hasard aujourd'hui. Je pense qu'il y a cette espèce de grande réconciliation avec la terre-mère, avec tous les éléments de la nature, qui est l'essence même du chamanisme, puisque le chaman est celui qui réconcilie finalement les éléments entre eux, puisque nous sommes toujours devant du chaos, devant des catastrophes humaines, écologiques. Donc le chaman, on a souvent dit que c'était le gardien de l'ordre d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très séduisant dans le message du chamanisme qui est d'une part de de réduire un petit peu la pensée rationnelle inhibitrice, de laisser venir certaines formes d'émotions, mais aussi de se connecter aux éléments. Alors là, je pense être très porteur aujourd'hui.
Mais ils nous disent bien, surtout que ça ne vous monte pas à la tête, et ne vous prenez pas pour des chamans. Eux-mêmes ne se prononceront jamais chamans. Simplement, ils enseignent quelque chose qui permet à chacun d'évoluer, c'est tout.
Je crois que cette hésitation aussi au niveau du chamanisme, ça entre dans tout ce monde de gourous, de gens qui savent mieux que les autres quelque chose. Ça entre aussi dans tout le monde qu'on appelle des sectes et le contrôle de l'autre. Et je crois que on est en train de plus contrôler l'autre maintenant avec l'ordinateur qu'avec ces idées ici.
Parmi les élèves, nous avons une certaine proportion d'eux qui sont initialement séduits par la possibilité d'un pouvoir qui vient justement d'une connaissance plus profonde et d'un contact plus profond avec l'énergie des choses. Nous sommes très conscient que c'est probablement l'ombre de n'importe quelle pratique spirituelle, c'est la séduction d'un pouvoir. Et alors l'abus du pouvoir et un abus d'influence sur d'autres personnes. Ceux qui sont uniquement pointés ou focalisés sur le pouvoir ne restent pas à prendre en profondeur avec nous.
De d'autres façons, nous allons utiliser maintenant une façon de travailler avec les arts qui nous permet aussi d'apprendre une autre façon.
Personnellement, je ne suis pas confortable me présentant comme chamane. Le ou la chamane est appelé comme ça par sa communauté à cause des résultats de guérison, de divination qu'il obtient. Ce que je préfère dire, c'est que je suis une praticienne chamanique. Je me sens confortable avec ça. Et c'est tout à fait compatible avec le fait que je suis une psychothérapeute transpersonnelle.
Oui, la figure du chaman, je pense qu'elle est multiple, elle est insaisissable, et dans ce sens-là, elle peut être investie, ce qui est évidemment très riche. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, je pense que le chaman représente quelqu'un qui est hors du commun, quelqu'un qui est au service de la collectivité, quelqu'un qui, à la fois, a du pouvoir, à des pouvoirs, mais qui sont des pouvoirs orientés vers un bien. Et donc, je pense que, comme le philosophe Michel Lacroix, qui s'est un peu penché sur cette question, le chaman aujourd'hui correspond presque, je dirais, point par point, à une demande d'aujourd'hui. Alors, quelle est cette demande? C'est peut-être d'accroître un contrôle sur son existence, de pouvoir passer ainsi dans différents mondes, d'être aussi sous la protection d'animaux tutélaires, d'ancêtres. Il y a là une réserve de sens inouïe, puisqu'il s'agit à la fois de construire sa propre existence, d'avoir un pouvoir, d'avoir éventuellement un pouvoir qui peut servir pour autrui.
Je ne m'appellerai jamais chaman, je pratique le chamanisme. Ce qui m'a toujours attiré, une des choses qui m'a attiré dans la pratique chamanique, c'est aussi que les maîtres ou les guides, si vous voulez, sont des guides, des maîtres intérieurs, c'est-à-dire ce sont des esprits aidants, guidants que l'on rencontre, qui sont dans la réalité non ordinaire, dans la dimension spirituelle. Ce sont ceux-là qui sont les vrais maîtres. En tant qu'enseignant, au point de vue du chamanisme, mon rôle est d'introduire la pratique chamanique, de guider les gens au point de vue de compréhension de leurs expériences, mais leur enseignement personnel au point de vue du développement de leur vie spirituelle, de leur développement de leur personne, c'est avec leur maître, leur guide intérieur que ce travail se fait. De ce sens-là, le gourou ou maître spirituel en tant qu'homme ne fait pas partie de la pratique chamanique.
Je trouve intéressant Michel Lacroix dans un bouquin qui s'appelle « Le culte de l'émotion », qui est sorti en 2002, je crois, estime qu'aujourd'hui la figure du chaman semble plus attractive que celle du héros d'il y a peut-être longtemps, et même du sage d'il y a quelques années. Il dit aujourd'hui la figure du chaman condense deux dimensions, à la fois le côté, l'élan humanitaire, puisque cet homme est au service de son groupe, mais en même temps le côté trans. Et peut-être que précisément les jeunes d'aujourd'hui sont intéressés par cet aspect-là. Eux qui aiment quand même certaines musiques, certaines évasions. On ne parlera pas pour eux de plantes hallucinogènes, mais enfin, on n'est pas loin non plus. Donc il y a là, chez le chaman, celui qui peut sortir de lui-même, mais celui aussi qui rend service. Et en cela, le chaman est peut-être une figure très contemporaine, même si elle est tout à fait ancienne et archaïque.
La façon dont cela ça se fait, on a une question, va dans la nature et on marche, changeant son état de conscience pour être dans l'état de conscience chamanique, mais restant les yeux ouverts, sachant, voyant que vous ne cogniez pas contre des choses, des gens, mais allant un peu au hasard, voyant où votre promenade vous mène, et alors étant attentif aux signes que les esprits de la nature vont vous donner. Vous pouvez recevoir des messages des arbres, des messages des plantes, des nuages, du soleil, de la terre, du vent, de l'eau. Ce sont tous les esprits de la nature vraiment qui vont...
Je crois que beaucoup de scientifiques ont fait des découvertes, si vous voulez, par ce qu'on pourrait peut-être appeler intuition, ou si vous voulez... contact avec des sources d'informations qui ne sont pas rationnelles. Certainement, la pratique chamanique et le contact avec les esprits et la communication, le rapport, peut amener toutes sortes d'informations importantes. Et pour moi, qui m'intéresse donc très fort en astrophysique et en cosmologie, de connaître l'aspect spirituel, c'est-à-dire les esprits, si vous voulez, qui peuplent le cosmos, donne une dimension au cosmos qui va plus loin que uniquement l'aspect scientifique, qui est important, mais qui n'est qu'une partie de la dimension, pour moi, de la réalité, qui a et une dimension physique et une dimension spirituelle.
La religion, depuis des siècles, a mis en place un grand constraint dans notre liberté de pensée large. La science aussi a mis en place une très très grande contrainte. Mais c'est toujours fascinant que dans la science, les gens qui étudient les choses comme l'astrophysique, la physique, sont souvent très très intéressés. Ils font beaucoup d'explorations eux-mêmes dans le surnaturel, le supernaturel, le chamanisme, la méditation.
Nous connaissons l'histoire de l'univers jusqu'au Big Bang, à une petite fraction de seconde après le début de l'univers. Et c'est un travail passionnant, alors, de travaillant avec des esprits du cosmos, de retrouver alors le mythe de la création. Que s'est-il passé au Big Bang? Que s'est-il passé avant le Big Bang? Et ça, je crois que c'est les mythes des traditions culturelles qu'on connaît, des indigènes de diverses cultures, sont dépassés, parce qu'on connaît, la science a été beaucoup plus loin. Il faut recréer des nouveaux mythes. Que s'est-il passé au Big Bang? Et je crois que c'est là où la science ne peut plus donner des réponses. C'est là où le chamanisme peut donner le mythe de création.
Les personnes intéressées sont des gens qui sont souvent eux-mêmes professionnellement impliqués dans le domaine thérapeutique ou artistique, je dirais globalement, ou alors aussi dans l'enseignement. Donc c'est ça, souvent, ça vise à mon avis une quête de soi, certainement. Les gens qui participent, à mon avis, sont à un moment clé de leur vie, donc à mon avis c'est pas à 20 ans peut-être qu'on prend du recul et qu'on entre dans ce type de démarche. Je pense qu'aussi, elle n'est pas accessible à tous sur le plan financier, c'est quand même un aspect qu'il faut relever. Donc, moi, je vois plutôt un public féminin entre, je dirais, 35, 55, quelque chose comme ça. Et là, mais je pense que les stages, en général, de développement personnel touchent un public féminin. Bien que, on m'ait dit que dans la pratique du chamanisme, il semblerait que les hommes soient peut-être plus demandeurs que pour d'autres stages du même style. Mais je suis frappée, par exemple, dans mon enseignement, j'ai des élèves de 18 ans, et bien je pense qu'il y a 5 ans, le chamanisme pour eux, ça ne représentait rien du tout. Et très récemment, j'ai évoqué la question, et leurs yeux brillaient. Il y a chez eux vraiment une curiosité. Je crois que la figure du chaman, Elle est tout à fait fascinante. Hein.
Des ambassadeurs et des princesses et des...
Des banquiers, des avocats, des plombiers.
Oui, tapissiers.
Et nous avons eu aussi des prêtres, des religieuses. Oui. J'ai travaillé avec un évêque un jour.
Il est vrai que je préfère témoigner dans l'anonymat, car les pratiques chamaniques sont trop souvent considérées comme incompatibles avec le christianisme. Je sais très bien qu'il y a dans ma propre église une majorité de gens qui seraient incapables de comprendre ce choix, que je partage cependant avec ma famille proche.
Jean est pasteur protestant dans la région de Strasbourg. Il pratique le chamanisme, mais a tenu à rester totalement anonyme. Son témoignage nous parvient sous la forme d'un texte lu par Christine Van Acker.
Je n'ai pas l'intention de devenir chaman. Je reste un simple pratiquant chamanique. Ce que je souhaite, c'est intégrer l'ouverture spirituelle chamanique dans ma pratique pastorale. Et plus j'avance, plus je vois des ponts entre le christianisme et le chamanisme. Car je crois que toute religion, dans son aspect premier, possède un fondement chamanique. Je crois que Dieu est un sujet important du chamanisme. Je crois qu'il est omniprésent, ne serait-ce qu'à titre de fondement unificateur de tout le monde créé, visible et invisible. Le chamanisme dirait... de la réalité ordinaire et non ordinaire.
On a beaucoup annoncé que Dieu était mort, hein, pour prendre la fameuse phrase de Nietzsche, que la religion allait probablement s'éteindre, ce qui d'une certaine manière est vrai, puisqu'on s'aperçoit que les religions instituées, en tout cas dans nos pays, sont en déclin, et c'est d'ailleurs la couverture de Nouvelle Obs, c'est pour ça que je l'avais prise. Je me dis, voilà, c'est vraiment dans l'air du temps. On s'interroge sur les nouvelles quêtes de divin ou de surnaturel. Donc le phénomène religieux n'est certainement pas mort, mais il se redéploie d'une autre manière, ce que les sociologues de la religion appellent la recomposition du religieux.
La pratique chamanique dans mon ministère me permet d'être mieux à l'écoute de l'autre, d'être plus réceptif à différentes dimensions invisibles de notre rencontre. Elle enrichit mon monde spirituel. Il m'est aussi arrivé dans mes voyages chamaniques de rencontrer des personnages bibliques, des saints, ou même le Christ. Les pratiques ne sont pas si éloignées qu'on ne le croit. Je crois que le chamanisme apporte beaucoup en matière de rituels. Le monde moderne a cru et croit qu'il peut se passer de toute ritualité religieuse. Or, on découvre aujourd'hui que l'humain a besoin de rituels pour donner une forme et un rythme à sa vie. Les grands rites religieux ne sont rien d'autre qu'une manière de dire les passages de la vie et de les inscrire dans le monde spirituel. Si nous pouvions retrouver la nécessité du rite pour marquer nos passages de vie, pour remercier, pour faire le bilan ou pour nous préparer à ce qui vient, nous pourrions nous décharger de ce qui a précédé et accueillir ce qui vient avec plus d'ouverture. Sans les rituels, tout finit par s'accumuler et nous peser. Nous portons toutes nos étapes de vie comme un fardeau de plus en plus lourd. Dans la pratique chamanique, les rituels viennent nous permettre de déposer les choses, de les laisser aller. Ils nous permettent aussi d'être plus solides, pour aborder un nouveau temps.
Alors, vous pouvez aller retrouver l'esprit de la terre dans le monde d'en bas, dans le monde du milieu ou dans le monde d'en haut. Et vous pouvez y entrer de la façon dont vous voulez.
Il y a une quête de sens aujourd'hui que probablement la science, la politique ne parviennent pas à honorer. Et donc, il y a des tâtonnements, et ces tâtonnements sont peut-être marginaux, mais très révélateurs d'une société, comme on a beaucoup dit, hein, désenchantée, pour parler comme Marcel Gauchet, ou d'une société qui manque peut-être de repères. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très humainement touchant, et parfois maladroit, dans la manière de s'engouffrer dans telle ou telle discipline. Mais je trouve que c'est tout à l'honneur de l'être humain, de ne pas se contenter de la consommation, des overdoses qu'on le contraint presque à accepter. Donc il y a quand même un aspect de recul et de prise de distance.
Je dirais, pour moi, ce sont simplement des différents aspects de la même énergie totale que j'appelle source. Le chamanisme est une voie d'entrée magnifique dans cet abord avec la source originelle que nous sommes. Et dont nous sommes des manifestations incarnées.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est cette idée du supermarché religieux, hein, qui a déjà été évoquée il y a plusieurs années. Et je pense que quand on feuillette toutes ces brochures, on ne peut pas s'empêcher de dire que le choix est infini et qu'on peut, sans scrupule, se servir à gauche et à droite. Donc on sent que c'est une quête très individuelle.
Enfin, je ne sais pas, je serais plutôt optimiste. Il me semble quand même qu'il y a de petits grands mouvements de résistance aujourd'hui à cette espèce de conformisme et que cette spiritualité revisitée en est un aspect, hein, maintenant avec toutes les dérives possibles aussi, parce qu'il faut bien dire que, le souci du collectif, le souci du changement social, de l'engagement politique, tout ça est assez absent de tous ces stages. Hein. Il s'agit de moi d'abord, et si je suis un peu converti de l'intérieur, si mon regard change, je changerai le monde.
Et quand quelqu'un vient chercher de l'aide, la première chose que le chaman fait, c'est aller faire un voyage chez ses animaux de pouvoir et maîtres et demander ce qui est nécessaire pour la personne. Il y a certaines pratiques de guérison chamanique qui sont très très communes, qui sont connues sur tous les continents. La première, c'est donc...
Le but de Harner, c'est de retrouver un chaman, un chamanisme, pardon, avec un grand C, universel. Mais ça n'existe pas. C'est pour ça que les anthropologues sont très réticents par rapport au néo-chamanisme. Pour un anthropologue, un chaman est tel chaman. Et ce n'est pas d'abord une institution, c'est tel chaman dans tel village, dans tel contexte. Un chaman ne danse pas comme un autre, ne prononcera pas les mêmes paroles. Donc universaliser et vendre un chamanisme de tous âges et de tous lieux, ça me semble un petit peu...
Avec votre animal de pouvoir ou un maître, parce que ce sont de nouveau les animaux qui font le travail, donc il faut que vous puissiez les suivre.
Cet après-midi, nous travaillerons dehors de nouveau, y compris avec des harpes et d'autres sortes de communication. Le travail qu'on ferait avec la terre serait un voyage assez classique. L'esprit de la terre est un esprit très guérisseur. C'est un travail où vous iriez chercher une guérison personnelle. Et ça peut être pour un but spécifique, ou bien simplement demander une guérison en général.
Pourquoi est-ce que ça serait compliqué, en fin de compte ? Il n'y a pas de raison. Mais on est tellement habitué à chercher de grandes explications rationnelles. Et dans notre culture, plus c'est compliqué, plus c'est la preuve que c'était pensé, et donc que ça va être vrai, que c'est rationnel, un bon raisonnement bien solide. Est bien compliqué, alors qu'en fait la vérité est probablement là, toute simple et à portée de main.
Si j'enseigne la pratique chamanique, c'est ma conviction que un des grands malaises de notre société occidentale surtout, c'est que nous avons perdu ce sens du sacré. Je crois que, par exemple, la survie de la planète au point de vue écologie demande vraiment qu'on retrouve chaque personne, chaque individu, ce sens du sacré. Je crois que c'est cela qui arrêtera la destruction que nous menons partout sur la planète. La pratique chamanique a été fort anéantie dans pas mal de pays et par les religions missionnaires et par culture surtout occidentale de l'Europe qui venait s'imposer et qui détruisait un système de vie. Ce qui m'intéresse fort, c'est d'aider à réintroduire une tradition chamanique dans notre culture occidentale. Elle a existé ici en Europe, dans les cultures celtiques et celles qui ont précédé. Il est important de retrouver ces traditions qui sont nos traditions spirituelles à nous et de recréer une pratique chamanique qui marche pour le 21e siècle, si vous voulez. Je suis sûr que les pratiques chamaniques au long des millénaires ont évolué, ont modifié avec l'évolution des cultures. Je crois qu'il nous faut redécouvrir de nouveaux rituels, de nouveaux mythes, de nouvelles pratiques pour le 21e siècle dans notre culture moderne. Je ne crois pas qu'il faut rejeter la culture moderne ou même la technologie ou la science. Ce qu'il faut, c'est y retrouver le sacré. Et je crois que la pratique chamanique peut aider beaucoup à cela. Et mon grand désir, c'est qu'il y ait un renouveau chamanique qui ne soit pas une copie d'anciennes pratiques chamaniques de tribus qui n'ont rien à voir avec le 21e siècle, mais qui aient à voir avec notre propre culture, notre propre science, notre propre compréhension du monde aujourd'hui.
Ce documentaire a été réalisé par Thierry Van Roy. Je remercie le docteur Arsma, Noël et Claude Poncelet, Anne-Françoise, Sander Kirsch, Claire Lejeune, Isabelle Slinks, Dominique Thomène de l'association Tetra, Christine Van Acker et Jean-Pierre Van Alst. avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique du ministère de la Culture de la Communauté française de Belgique.